Comme je suis dans le no-tourisme, ma clientèle va être principalement étrangère. Est-ce que sur ma chaîne YouTube, je peux faire des vidéos en anglais, sous-titrées en français, ou vaut mieux que je parle en français et que je sous-titre en anglais?
Moi, je ne connais pas ton marché, donc c'est difficile de dire si qu'est-ce qui va leur parler le plus. J'ai tendance à dire qu'ils vont préférer quand même que tu parles en anglais nativement.
Avec le bon accent français.
Oui,
l'accent français, c'est plus un atout qu'autre chose, très honnêtement. Beaucoup d'anglo-saxons trouvent ça cute, hein, mignon. Après, il faut quand même qu'ils te comprennent, tu vois. Donc, tu vois, moi, j'ai un gros accent français quand je parle anglais. Je prends ça plus comme un atout qu'autre chose. J'ai quand même pris des cours de accent prediction.
Mais est-ce que sur ma chaîne YouTube, je peux avoir des vidéos en français et en anglais?
Tu es dans un marché spécifique, dans le sens où ça va être compliqué peut-être pour toi de fidéliser des gens sur la durée. Parce que les gens, ils ne vont pas faire un wine tour tous les 6 mois ou tous les ans. Right? Je parle en anglais, ça y est.
Yes.
Yes? Okay, we'll do that in English now. Et du coup, ça me paraît peu probable que tu as des gens qui sont tellement fans, qui vont s'abonner à ta chaîne. Enfin, tu vas en avoir. Mais tu vois, qui vont suivre le contenu, tu vois. Parce que ce serait plus facile si tu parlais de 20 tout court. Tu auras de grosso modo deux catégories de personnes. Ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire un tour de 20, mais finalement, que ce soit bio ou pas. Juste bio, tiens, c'est fun, pourquoi pas, tu vois, mais c'est pas primordial. Et ceux qui sont vraiment passionnés de vin bio, et là, tu pourras, juste en parlant de vin bio, tu vois, qui sont connus, en faisant des vidéos de dégustation, par exemple, ou juste en montrant un petit peu, finalement, ce tour-là, tu vois, parce que quand tu fais un tour, tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui fume avec son smartphone, par exemple. Hein. Tu vas pouvoir te positionner sur des mots-clés que les gens qui sont passionnés de vin bio tapent. Et du coup, ces gens passionnés de vin bio vont tomber sur les vidéos et vont dire « Tiens, je savais même pas que ça existait, un wine, organic wine tour, waouh !» C'est une manière d'avoir des prospects. Et dans ce cas-là, il faut que tu te positionnes sur des mots-clés qui sont tapés par les gens, donc en l'occurrence en anglais, mais peut-être que les Allemands, ils font des recherches en allemand. Tu vois, il faut aussi penser à ça, tu vois. Donc il faut toujours se mettre à la place du prospect et se dire « Qu'est-ce qu'il tape comme mot-clé concrètement dans YouTube et dans Google ?» Donc ça, ce qui est bien, c'est que quand toi, t'es déjà une professionnelle, donc tu fais déjà ça, quoi. Donc tu peux demander aux gens, en fait. Et ça, c'est une source d'information extraordinaire. Hein. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne où je dis que c'est pas parce qu'on est 2-0 qu'il faut complètement mettre le 1-0 de côté. Les discussions en one-to-one, ça marche bien aussi hein, pour savoir ce que les gens pensent. Après, tu peux aussi utiliser des outils comme le générateur mot-clé de Google pour voir un petit peu ce qui est utilisé dans ton domaine. Et derrière, il y a un exercice sympathique à faire. C'est quand vous avez une mise comme ça de recherche dans votre domaine, vous essayez de deviner derrière l'intention d'achat. Quelle est l'intention d'achat? Par exemple, quelqu'un qui tape vin rouge et quelqu'un qui tape par exemple Saint-Émilion 2005, d'après vous, l'intention d'achat est plus forte dans quel mot-clé? Exactement. Parce que le vin rouge, il y a peut-être des gens qui cherchent du vin rouge à acheter en tapant vin rouge, mais il y a aussi plein de gens qui veulent savoir comment c'est fabriqué, ou qui sont curieux, qui veulent voir ce qu'il y a, etc. etc. Donc il n'y a pas forcément d'intention d'achat. Donc tu vois, il faut poser aussi cette question-là. Qu'est-ce qui tape et quels sont les mots-clés avec derrière une intention d'achat? Après, le truc, c'est que tu es dans un domaine où il y a plein de gens qui ne sont peut-être pas au courant que ça existe. Tu vois, il n'y a pas forcément... Mais
bon, moi, de manière générale, je suis contre le fait de publier plusieurs langues sur une seule chaîne. Attends, mais justement, tu as un cas particulier, toi. Parce que les gens qui s'abonnent pour suivre le contenu sur une chaîne, généralement, ils veulent suivre dans une langue, tu vois. Il y en a plein qui ne vont pas parler l'autre langue. Et dans ton cas, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont suivre, tu vois ce que je veux dire? Ça, à moins que tu arrives à te positionner sur un créneau, je fais de la dégustation de 20 bio, qui, à mon avis, serait intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Gary Vee, que tu connais ou pas? Bon, cet Américain dont je parle tout à l'heure, à la base, il s'est fait connaître, il a développé un empire dans l'industrie du vin aux États-Unis. Il a repris l'épicerie de quartier de son père, hein, et il en a fait un empire, je ne sais plus combien, de dizaines de millions de dollars, parce que, simplement, il a fait quelque chose de très simple, c'est que il s'est dit, tiens, j'adore picoler, pourquoi je ne me filmerais pas en train de picoler? Bien sûr, c'était pas juste picoler, c'était de la dégustation de vin. Et il vous disait, voilà, alors j'ai découvert ce vin, il est très sympa, etc. Il vous parlait un petit peu des qualités, des défauts du vin de manière très transparente, sans jamais vraiment vouloir le vendre. Et il débutait tout ça, il faisait des tests à l'aveugle, filmés, etc., etc. Et ça a complètement explosé. Et ça lui a permis de complètement développer son business, en fait. Et je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus en français. Ça fait des années que je le dis. Maintenant, ça commence à se développer un petit peu. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, peut-être que je t'invite aussi à élargir un peu le champ. Peut-être qu'il est trop tôt, tu vois, pour se nicher à ce point-là. Après, tu parles aussi de ta compétence. mais en tout cas, tu es dans un domaine qui est très, très intéressant. Donc, pour répondre à ta question, et tu vois que finalement, il n'y a jamais de bonne réponse, ça dépend de, toujours de la stratégie que tu as derrière, des circonstances. En l'occurrence, si tu restes vraiment sur le Wine Tour, tu peux, à mon avis, publier plusieurs langues sur une même chaîne parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'abonnés, donc ça ne va pas les gêner. Tu vois. Ça va plutôt être du trafic que tu vas choper via les recherches. Par contre, si tu as une stratégie de fidélisation et qu'à terme, tu veux faire autre chose que simplement des tours, ce qui, à mon avis, ne serait pas bête, il vaut mieux avoir une chaîne dans chaque langue.
All right.
Okay. Et regarde ce qu'a fait Gary Vee, à mon avis.
J'ai déjà vu en fait.
Tu le modélises et voilà quoi. Les gens sont paumés, tu vois, on leur donne une carte des vins. Moi je suis paumé. Il y a 20 vins.
Viens mes dégustations à Bordeaux.
Voilà.
À t'accueillir.
C'est un sujet complexe, parfois embarrassant, tu vois, parce qu'en plus dans pas mal de pays, il y a aussi une notion de hiérarchie, tu vois. C'est-à-dire que quand, je sais pas, il y a un dîner d'affaires, c'est celui qui a la plus haute position hiérarchique qui doit choisir le vin. En France c'est le cas. C'est un peu la tradition. Et parfois la personne est très embarrassée. Parce qu'elle ne sait pas du tout comment choisir. Donc, tu vois, il y a vraiment un potentiel d'éducation sur ça qui est important. Quoi.
Merci beaucoup. Merci. Et tu es bienvenue à Bordeaux pour boire.
All right.
C'est génial quand même, développer un empire en se filmant en train de picoler. C'est quand même pas mal comme job. Et par contre, Gary Vee, c'est pour vous dire aussi que personne n'est parfait, il a fait une erreur stratégique majeure à l'époque parce qu'il a commencé à publier ses vidéos, si je ne dis pas de bêtises, vers 2006-2007. Il ne les a pas publiés sur YouTube. Non, ce n'était pas Dailymotion. Pendant des années, il a publié sur cette plateforme dont je ne me rappelle même plus le nom, c'est pour vous dire, qui n'existe quasiment plus, parce qu'il n'avait pas compris l'avenir de YouTube. Donc, c'est pour vous dire, même les entrepreneurs les plus incroyables, parce que ce mec-là est incroyable, font des erreurs parfois basiques. Donc, ça ne va pas vous arrêter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur ? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.